Chapitre 19. C'était un curieux spectacle que le retour de ces braves, pour qui on avait enrichi la langue verte du significatif vocable de Frank Filer. Ils n'étaient pas si fiers qu'on les a vus depuis. Assez embarrassés de leur contenance, au milieu d'une population toute frémissante encore des émotions du siège, ils avaient le bon goût de chercher des prétextes à leur absence. « J'ai été coupé, » affirmait le baron de Thaler. « J'étais allé en Suisse mettre en sûreté ma femme et ma fille. Quand j'ai voulu rentrer, bonsoir. Les Prussiens avaient fermé les portes. Pendant plus de 8 jours, j'ai erré autour de Paris, cherchant une issue. Je n'ai rien gagné que d'être soupçonné d'espionnage, arrêté, et pour un peu plus, on me fusillait net. « Moi, » déclarait M. Costeclar, « je prévoyais ce qui est arrivé. » Je savais que c'était au dehors, pour organiser des armées de secours, qu'il faudrait des hommes. Je suis allé offrir mes services au gouvernement de la Défense, et tout Bordeaux a pu me voir botté, éperonné, prêt à partir. Et en conséquence, il sollicitait la croix et ne désespérait pas de l'obtenir par la toute-puissance de ses relations financières. « Un tel l'a bien obtenu, » répondait-il aux objections. Et il nommait celui-ci ou cet autre dont les faits d'armes se bornaient à s'être promenés au soleil, galonnés jusqu'aux épaules. « Mais c'est moi qui la mériterai, cette croix, » soutenait M. Jotras jeune, « car moi, du moins, j'ai rendu des services. » Et il racontait qu'après avoir fouillé toute l'Angleterre pour y découvrir des armes, il s'était embarqué pour New York, où il avait acheté des masses de fusils et de cartouches et jusqu'à des batteries de canons. « Il avait beaucoup souffert pendant ce voyage, » ajoutait-il, « et cependant il ne le regrettait pas, puisqu'il lui avait fourni l'occasion d'étudier sur place les mœurs financières de l'Amérique. Et il en revenait avec assez d'idées pour faire la fortune de 3 ou 4 sociétés au capital de 20 millions. « Ah, ces Américains, » s'écriait-il, « voilà des hommes qui comprennent les affaires. Près d'eux, nous ne sommes que des enfants. » C'est par M. Chapelain, par les Desclavettes et le papa Desormeaux que les nouvelles arrivaient rue Saint-Gilles. C'était aussi par Maxence, dont le bataillon avait été licencié et qui, en attendant mieux, s'était casé, à titre de commis auxiliaire, au chemin de fer d'Orléans, où il gagnait 200 francs par mois. Car M. Favoral, lui, ne voyait ni n'entendait plus rien de ce qui se passait autour de lui. Son travail l'absorbait entièrement. Il partait de meilleure heure, rentrait plus tard et en perdait le boire et le manger. Il disait à ses amis que les affaires reprenaient d'une manière inespérée, qu'il y avait des fortunes à gagner pour tous les gens qui avaient de l'argent comptant et qu'il fallait bien rattraper le temps perdu. Il prétendait que l'indemnité énorme à payer aux Prussiens allait exiger un immense mouvement de capitaux, des combinaisons financières, un emprunt, et qu'il ne se remue pas tant de milliards sans qu'il tombe quelques petits millions dans les poches intelligentes. Ébloui par la seule énumération de ces sommes fabuleuses, « Ce diable de Favoral, disaient les autres, est bien capable de doubler ou de tripler sa fortune. Décidément, sa fille sera un fameux parti. » Hélas, jamais Mademoiselle Gilberte n'avait eu au cœur tant de haine et de dégoût pour cet argent, la seule préoccupation, l'unique sujet de conversation des gens qui l'entouraient. Pour cet argent maudit qui s'était élevé comme une insurmontable barrière entre elle et Marius. C'est que déjà 2 semaines s'étaient écoulées depuis le complet rétablissement des communications et M. de Trégard n'avait pas donné signe de vie. C'est avec d'indicibles battements de cœur qu'elle attendait chaque jour l'heure de la leçon du signor Gismondo Pulci. Et plus douloureuses à chaque fois étaient ses angoisses quand elle l'entendait crier « Rien, pas une ligne, pas un mot, l'élève a oublié son vieux maître. » Mais la jeune fille savait bien que Marius n'oubliait pas. Son sang se glaçait dans ses veines quand elle lisait dans les journaux l'interminable liste de ces pauvres soldats qui, pendant l'invasion, avaient succombé, les plus heureux sous les balles prussiennes, les autres le long des chemins, dans la boue ou dans la neige, de froid, de fatigue, de misère, de besoin. Elle ne pouvait écarter de son esprit le souvenir de cette vision funèbre qui l'avait tant épouvantée, et elle se demandait si ce n'était pas un de ces pressentiments inexplicables dont on cite des exemples et qui annoncent la mort d'une personne aimée. Seule, dans sa petite chambre, le soir, elle retirait de la cachette, où elle la conservait précieusement, cette lettre que Marius lui avait confiée, en lui recommandant de ne l'ouvrir que lorsqu'elle serait sûre qu'il ne reviendrait pas. Elle était très volumineuse, renfermée dans une épaisse enveloppe serrée de cire rouge, aux armes de Trégard, et Mademoiselle Gilberte, souvent, s'était demandé ce qu'elle pouvait bien contenir. Et maintenant, elle frissonnait en se disant que peut-être elle avait le droit de rompre le cachet. Et personne à qui demander une parole d'espoir. En être réduite à cacher ses larmes et à essayer de sourire. Être condamnée à inventer des prétextes pour les gens qui s'étonnaient de voir flétrir en sa fleur son exquise beauté, pour sa mère, dont l'inquiétude était sans borne, de la voir aussi pâle et les yeux rougis, minée par une fièvre continuelle. Marius, en partant, lui avait légué un ami, le comte de Villegret, et si quelqu'un savait quelque chose, c'était lui. Mais elle ne voyait nul moyen d'en rien apprendre sans risquer son secret. Lui écrire, rien n'était si aisé puisqu'elle avait son adresse rue Taranne. Mais où lui dire d'adresser sa réponse ? Rue Saint-Gilles, impossible. Elle avait la ressource de l'aller trouver ou de lui donner un rendez-vous aux environs. Mais comment se dérober une heure sans éveiller les soupçons de Madame Favoral ? Parfois, la pensée lui venait de se confier à Maxence qui, avec une admirable constance, travaillait à racheter son passé. Mais quoi ? Il lui faudrait donc avouer la vérité, lui avouer qu'elle, Gilberte, elle avait prêté l'oreille aux propos d'un inconnu rencontré par hasard dans la rue et qu'elle l'aimait et qu'elle n'attendait rien d'heureux ou de malheureux que de lui ? Elle n'osait pas. Elle ne pouvait prendre sur elle de surmonter la honte d'une telle situation. Le désespoir la gagnait, le jour où le signor Pulci lui arriva rayonnant et s'écriant dès le seuil « J'ai des nouvelles !» Et tout de suite, sans s'étonner du trouble affreux de la jeune fille qu'il attribuait à l'intérêt qu'elle lui portait, à lui, Gismondo Pulci, « Je ne les ai pas eues directement, poursuivit-il, mais par un respectable seigneur à longue moustache blanche et décorée, qui, ayant reçu une lettre de mon cher élève, a daigné venir chez moi me la lire. » Le digne maestro n'en avait pas oublié un mot de cette lettre, et c'est presque textuellement qu'il a rapporté. 6 semaines après s'être engagé, son élève avait été nommé caporal, puis sergent, puis sous-lieutenant. Il avait pris part à tous les combats de l'armée de la Loire sans recevoir une égratignure. Mais à la bataille du Mans, en ramenant ses soldats qui pliaient, il avait reçu 2 coups de feu en pleine poitrine. Transporté mourant à une ambulance, il était resté 3 semaines entre la vie et la mort, ayant perdu toute conscience de soi. Depuis 24 heures, il avait repris connaissance et il en profitait pour se rappeler à l'affection de ses amis. Tout danger avait disparu. Il ne souffrait presque plus, on lui promettait qu'avant 1 mois, il serait sur pied et en état de rentrer à Paris. Pour la première fois depuis bien longtemps, Mademoiselle Gilberte respira à plein poumon. Mais on l'eût bien surprise si on lui eût affirmé qu'un jour approché, où elle bénirait ses blessures qui retenaient Marius sur un lit d'hôpital. Il en fut ainsi cependant. Madame Favoral et sa fille étaient seules, un soir à la maison, lorsque des clameurs s'élevèrent dans la rue, dominées par les refrains que hurlaient des voix avinées, accompagnées de roulements sourds et continus. Elles coururent à la fenêtre. Des gardes nationaux venaient de s'emparer des canons déposés à la place royale. Le règne de la commune commençait. En moins de 48 heures, on en fut à regretter les pires journées du siège. Sans chef, sans direction, les honnêtes gens perdaient la tête. Tous les braves revenus à l'armistice s'étaient envolés. Bientôt, on en fut réduit à se cacher ou à fuir, pour éviter d'être incorporé dans les bataillons de la commune. Nuit et jour, autour de l'enceinte, pétillait la fusillade et tonnait l'artillerie. De nouveau, M. Favoral avait renoncé à aller à son bureau. À quoi bon ? Parfois, d'un air singulier, il disait à sa femme et à sa fille « Pour le coup, c'est bien la liquidation. Paris est perdu. » Elles durent le croire lorsqu'arriva la lutte de la dernière heure, quand, aux détonations du canon et à l'explosion des obus, elles sentirent leur maison trembler jusque dans ses fondations, quand, au milieu de la nuit, elles virent leur appartement éclairé comme en plein jour par les flammes de l'incendie du grenier de réserve et des maisons de la place de la Bastille et de l'hôtel de ville. Et, dans le fait, le rapide mouvement des troupes sauva seul Paris de la destruction. Mais, dès la fin de la semaine suivante, le calme commençait à renaître et Mademoiselle Gilberte apprenait le retour de Marius.